Bonjour. La voix qui part un peu, donc je vais essayer de garder tout l'essentiel pour maintenant. Ce matin, je vous propose de poursuivre une réflexion. C'est une série de prédications que j'avais commencé sur le thème du royaume de Dieu. Et donc le temps que ça s'affiche, mais on avait vu que si on voulait résumer en une phrase le message de Jésus, si on prend les évangiles et qu'on essaie de les condenser en une phrase, on pourrait arriver à cette phrase qui dit que c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et d'où le fait que j'avais intitulé cette série « Que ton règne vienne ». Certaines traductions disent « Que ton royaume vienne ». Et on avait essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Dans la première prédication, donc en fait elles sont disponibles sur le site internet pour ceux qui voudraient aller plus loin ou reprendre les choses, mais l'idée c'était de voir comment est-ce que l'annonce du royaume de Dieu était reçue par les gens, les contemporains de Jésus. Autrement dit, sur quel type de sol, de champ, Jésus il a semé. Qu'est-ce qu'il y avait, c'était quoi le terreau en fait? Quelles étaient les attentes des Juifs de l'époque? Et ce qu'on avait vu, c'était qu'en fait, il y avait une attente commune, c'était l'avènement du royaume de Dieu, mais qu'en fait, il y avait des manières très différentes de l'attendre, ce royaume. Et donc, on avait parlé de différents groupes qui attendaient donc, cette espérance, mais qui étaient différents. Je ne reviens pas dessus. Mais les Hérodiens avaient des manières d'attendre différentes des Zélotes ou des Esséniens ou des Pharisiens. Et on avait vu que Jésus, lui, il ouvrait encore une autre compréhension et qu'il prenait ses distances, dans une certaine mesure, avec ces représentations-là. Dans la deuxième prédication, on avait vu comment Jésus, lui, il allait justement présenter les choses. Comment est-ce qu'il parle du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il en dit? Quels mots il utilise? Et on l'avait fait ça au travers de trois expressions qui sont utilisées par Jésus. Ces trois expressions, c'est « le royaume de Dieu est proche », qui nous renseignait sur la réalité de l'ici et du maintenant. Le royaume de Dieu, c'est pas juste après quand je meurs ou à la fin du monde. Le royaume de Dieu, dans la compréhension de Jésus, c'est pour maintenant. Le royaume de Dieu est en vous ou parmi vous. C'est l'idée que le royaume est une réalité qui nous connecte les uns les autres. On en a parlé au travers de l'accueil, mais on pourrait prendre d'autres dimensions de relationnelles. Et une troisième expression que Jésus utilise beaucoup, le royaume de Dieu est semblable à. Et c'est souvent l'occasion à ce moment-là d'ouvrir vers une parabole, vers quelque chose qui nous permet de mieux comprendre. Alors de mieux comprendre, mais on l'avait vu aussi que c'était souvent un peu un mystère en fait. Comme le levain qui est dans la pâte, on ne le voit pas, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Comme la graine qu'on cache dans le sol et qui après germe. C'est un mystère qui nous met en marche. C'est une quête qui nous emmène à la rencontre et à la suite de Jésus. Mais à la fin de cette dernière prédication, il y a quelques personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit « Bon, c'est intéressant ce que tu nous as dit, mais en fait, ça ne nous avance pas beaucoup plus en fait. » Tu nous as dit ce que le royaume n'est pas, mais tu ne nous as pas dit ce que le royaume est. On sait qu'il est parti du monde comme les Esséniens, on sait qu'il ne veut pas utiliser la violence, voilà. Donc ça donne déjà certains éléments, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Et en fait, c'est ce que j'aimerais partager, en tout cas prendre le temps de voir avec vous ce matin, et dans des prédications ultérieures, parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder ce matin. Quelle est la nature, en fait, de ce royaume-là? Pour cela, je vous propose de nous appuyer sur un texte qu'on appelle classiquement celui de la tentation au désert. Dans les évangiles, il y a juste Jean qui n'en parle pas, Marc qui fait une très très courte phrase pour dire que c'est arrivé. En une phrase, il dit les choses. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, il y passa 40 jours, tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà. Mais c'est dans les évangiles de Luc et de Matthieu qu'on retrouve un récit plus complet. Et donc, c'est ce que je vous invite à lire. Alors, comme on est en vacances et que il y a en principe les enfants, il y a aussi les collégiens qui sont avec nous, je vous propose une lecture animée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, c'est une lecture interactive. Je vous explique le principe. On a quatre personnages, ou en tout cas quatre figures, qui sont présentes dans notre texte. Et à chaque fois que vous allez entendre l'un de ces personnages qui est nommé, quand je vais lire le texte, je vous propose de dire tous ensemble une expression ou une réaction. Par exemple, quand vous entendrez Jésus, vous allez dire le roc. Ok ? Donc on y va, on essaye. Jésus.
Le roc.
Super. Pour ceux qui veulent, vous pouvez même faire le geste. Quand vous entendrez Dieu, vous allez dire il est. Quand vous entendrez Satan ou le diable, ah ben c'est bon là, vous avez compris. Et quand vous entendrez les anges, alors on peut le faire un peu plus. Enfin moi j'avais noté voix angélique, mais ça peut être comme ça. À vous d'imaginer ce que ça veut dire. Donc je vous laisse le. Enfin non, il y a le texte après, donc on va passer le texte. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est bien, vous êtes réactif. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le diable s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Merci pour votre collaboration. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour la vie que tu as vécue sur terre. Merci parce qu'elle est parole de Dieu pour nous. Parce que par ta manière de vivre, ta manière, tes attitudes, tes actions, tes paroles, tu nous dis quelque chose de qui est Dieu. Que nous puissions être à l'écoute de cette parole. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre nos oreilles à ce que tu as à nous dire. Amen. À la fin du XIXe siècle, un écrivain russe qui s'appelle Dostoïevski, peut-être certains le connaissent, a écrit un livre monument, c'était son dernier livre, c'est un monument de la littérature russe. Et c'est considéré comme, beaucoup, comme l'un des ouvrages majeurs du XIXe siècle. Ça s'appelle « Les frères Karamazov ». C'est un bon pavé. Et dans ce livre, Dostoïevski imagine le retour de Jésus. Le retour, il a lieu pas à son époque, c'est-à-dire pas au XIXe siècle, parce que souvent, en général, quand on écrit, souvent on pense qu'on est un peu le centre de l'histoire, c'est-à-dire on pense tous que Jésus va revenir à notre époque, hein, c'est bien connu ça. Mais Dostoïevski va changer un peu, et il va faire revenir Jésus au XVIe siècle, à Séville, en Espagne. Alors je ne sais pas si pour certains ça parle. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix-là ? Je donne quelques mots d'explication. En fait, c'est à la période de ce qu'on appelle l'Inquisition espagnole. C'est une période sombre pour le christianisme. La violence, la répression sont utilisées au nom de Jésus. Des hérétiques, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas au christianisme, sont mis au bûcher, sont brûlés ou torturés. On est à l'opposé, très très loin des valeurs que Jésus a prônées d'amour du prochain, de pardon des ennemis. Et c'est dans ce contexte-là que, je vous fais un rapide résumé, que en fait Dostoïevski fait revenir Jésus dans la ville de Séville. Et puis les gens, alors au début il est incognito, puis les gens petit à petit le reconnaissent, Jésus il passe quand même pas inaperçu. Hein. Donc il y a un aveugle qui est guéri, il y a une jeune fille qui revient à la vie, et là les gens commencent à se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, le grand inquisiteur, c'est-à-dire le chef de l'inquisition, il voit tout ça, il sent le danger venir, et il ordonne d'emprisonner Jésus. Et le soir, il va le voir dans son cachot, et Dostoïevski nous raconte le grand discours qu'il a et l'échange qu'il a avec Jésus à ce moment-là. Certains l'ont illustré, ont pris des images pour manifester ça, donc dans cette prison de Séville. Et en fait, qu'est-ce qu'il lui reproche à Jésus? Il lui reproche d'être venu déranger l'humanité. En fait, les hommes, ils ne sont pas capables de vivre dans la liberté. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils sont faibles, il dit qu'ils ont besoin d'être guidés, il dit qu'ils ont besoin de trouver quelqu'un devant qui se prosterner. Et le reproche qu'il adresse à Dieu au travers de Jésus, c'est d'avoir manqué à sa mission d'amour en imposant aux hommes une liberté qu'ils ne sont pas capables de gérer, en fait. Et ça les rend malheureux. Et je cite quelques extraits. Donc c'est le grand inquisiteur qui parle à Jésus et qui dit: tu les as vus aujourd'hui, ces hommes libres? Oui, cette affaire-là, elle nous a coûté très cher. Mais cette affaire, nous l'avons enfin parachevée. Et en ton nom. Pendant 15 siècles, nous nous sommes torturés avec cette liberté. Mais maintenant, c'est fini et bien fini. Et plus loin, il explique ce qui est en jeu. Il n'existe que trois forces. Trois forces sur Terre qui sont capables de vaincre et de s'emparer pour toujours de ces rebelles faibles, donc ça c'est les hommes, c'est les êtres humains, pour leur bonheur. Ces forces, ce sont le miracle, le mystère et l'autorité. Nous avons corrigé ton œuvre et nous l'avons fondée sur le miracle, sur le mystère et sur l'autorité. Et les hommes se sont sentis heureux d'être à nouveau menés comme un troupeau et d'avoir pu enfin délivrer leur cœur d'un don si terrifiant qui leur avait apporté tant de douleurs. Et ça continue et ça continue. C'est assez effrayant, mais c'est aussi assez impressionnant, et c'est-à-dire ça marque, en fait, pour moi en tout cas, de considérer ces textes-là. Un auteur dont j'apprécie les écrits a dit la chose suivante: le message de Jésus a changé le monde. Jusqu'à ce que le monde change le message de Jésus. Le message de Jésus a changé le monde jusqu'à ce que le monde change le message de Jésus. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et le récit de la tentation nous aide un petit peu à comprendre ce changement en nous éclairant sur une question essentielle, justement, de justement quel genre de roi est Jésus ? Quel type de pouvoir il exerce dans son royaume? Est-ce que ça ressemble à celui de l'Inquisition chrétienne, l'Inquisition espagnole, ou est-ce qu'il a une autre manière de régner? Alors c'est vrai que c'est pas fréquent dans nos milieux évangéliques d'aborder ce sujet-là sous cet angle-là, et surtout d'utiliser le passage de la tentation par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui permet de vraiment comprendre ça, c'est l'expression clé « fils de Dieu ». Vous avez vu que dans le texte, à deux reprises, le diable dit « si tu es le fils de Dieu ». Et comme ça, intuitivement, à la lumière des 2000 ans d'histoire de christianisme, on peut s'imaginer qu'en fait, le diable fait référence au fait que Jésus est Dieu. Le fils de Dieu est Dieu, c'est-à-dire en fait, Dieu le Fils de la Trinité. Il y a probablement des choses qui sont intéressantes là-dedans, mais il y a aussi le fait que dans le contexte antique, il s'agit très clairement d'une référence royale, et qui est liée du coup à un pouvoir politique. En fait, c'est les souverains, c'est les rois, c'est les dirigeants qui tirent leur légitimité du fait qu'ils sont engendrés par les dieux. C'est une manière de dire, moi, le roi, je ne suis pas un homme comme les autres, j'ai été choisi, j'ai été béni, et j'ai une descendance divine. Et les dirigeants de l'Antiquité, d'Alexandre le Grand au Pharaon, ont tous revendiqué cette légitimité-là. Le premier empereur de Rome, qui s'appelait Auguste, César Auguste, se faisait appeler empereur César, fils du divin Auguste. À la base, son nom, c'était Gaius Octavius. Donc, il a quand même changé pas mal les choses. Et du coup, si on a cette perspective-là, en fait, on peut lire les choses de manière un peu différente. Finalement, ce que propose Satan à Jésus, c'est quoi ? C'est du pouvoir. C'est du pouvoir, on pourrait dire, politique. Et quand on prend la première tentation, par exemple, on s'en rend compte très clairement. Le roi, l'empereur, c'est celui qui pourvoit aux besoins de la foule, qui lui pourvoit du pain. Les Romains disaient du pain et des jeux. Et en fait, c'est ce que demande le peuple de Rome à ses dirigeants, et c'est ce que les dirigeants font en faisant des distributions gratuites de pain. Et donc, quand Jésus commence à faire des distributions gratuites de pain, qu'est-ce que les gens se disent ? Ils se disent, ben, c'est frappant. Quelqu'un qui offre du pain, ça peut être qu'un roi. Il nous faut donc le couronner roi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait faire. Jean mentionne qu'à la suite de la multiplication des pains, en fait, il nous dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là où il y a eu une sorte de mouvement de foule, où en fait les gens se sont dit, on va le couronner roi, c'est avec lui qu'on va pouvoir aller peut-être faire la guerre contre les Romains ou autre chose. Et Jésus dit, non. Et il se retire. Jésus a tenu ferme face à cette tentation-là. C'est quoi cette tentation ? En fait, c'est la tentation de se voir offrir le titre de roi. C'est-à-dire d'avoir une emprise sur des foules qui ont été impressionnées par ces miracles. Mais Jésus dit, moi je ne suis pas ce genre de roi-là. C'est la tentation du miracle. En fait, c'est un miracle qui produit l'abondance économique. C'est un miracle qui va satisfaire tous les besoins matériels de l'homme. Et là, on voit l'actualité que ça peut avoir. À l'époque, quel empereur, quel dirigeant, aujourd'hui quel homme politique, n'a jamais utilisé ces techniques pour influencer les foules, pour les faire voter pour lui. Avec moi, la croissance sera de retour, l'abondance sera de retour. Mais en fait, Jésus, il refuse de régner par ce pouvoir-là. Ce pouvoir de dépendance matérielle vis-à-vis des peuples. Il dit non à ce mensonge d'utiliser le miracle comme une porte d'entrée vers le pouvoir. Et la question que j'aimerais nous laisser, c'est, et nous, aujourd'hui, quelle fascination exerce le miracle ? Que ce soit dans sa dimension surnaturelle, où du coup on a parfois du mal à se dire qu'en fait Dieu est présent dans l'ordinaire de nos vies, ou que ce soit justement dans un mythe de l'abondance et de la bénédiction infinie de Dieu, ou de nos sociétés d'ailleurs. Alors du coup, la deuxième tentation, ben, vous l'avez compris, hein, on va faire le lien. Pour moi, ça aborde la question de la tentation du mystère. Alors là, il y a peut-être besoin de préciser un petit peu les choses. Le mystère, c'est ce qu'on cache. C'est ce que l'on garde pour soi, c'est ce qui est réservé à des initiés, à un groupe de personnes, et qu'on ne veut pas partager. Et alors du coup, vous allez vous dire, oui, mais la tentation, elle ne parle pas de ça. Ben en fait, il y a un élément qui est important, c'est le fait que, dans le texte, il nous est dit que le diable transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Alors, il y a beaucoup d'interprétations, certains disent que le haut du temple, ça a donné sur Golgotha, donc ça préfigure le fait que Jésus voit ce qu'il attend, la passion qu'il attend. Mais un des autres éléments, en fait, c'est le fait que ça se passe à Jérusalem, au temple. Et justement, on a un épisode que Matthieu nous relate de Jésus qui va à Jérusalem, au temple. Vous vous rappelez, hein, donc c'est au moment où il rentre à Jérusalem, il se fait accueillir comme un roi, puisque tout le monde lui dit « fils de David ». David, c'est le roi d'Israël par excellence. Et au lieu de créer une révolte et de prendre le pouvoir en disant « on va renverser les Romains », qu'est-ce qu'il fait ? Il va au temple et il chasse les marchands du temple en renversant les tables. Et il a cette phrase, cette parole qui dit « il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs ». Souvent, on comprend ce passage-là comme une critique de l'argent, une critique de la cupidité. En fait, les marchands, ils font du profit sur le dos des simples croyants qui sont simplement juste venus pour prier, pour offrir des sacrifices. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Jésus est vraiment venu remettre en question un système. Mais je pense qu'on peut ajouter à cette compréhension-là une autre lecture. Qu'est-ce que c'est qu'une caverne de voleurs ? Une caverne de voleurs, ce n'est pas l'endroit où on vole. On vole dans les maisons. La caverne de voleurs, c'est l'endroit où on stocke, où on amasse ce qu'on a volé. C'est l'endroit où on cache ce qu'on a volé. Jésus reproche aux Juifs, et notamment aux chefs religieux juifs, de s'être accaparé Dieu, de l'avoir privatisé, de l'avoir gardé pour eux. Vous vous rappelez de la bénédiction d'Abraham ? Où Dieu lui disait, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Et bien ça, à l'époque de Jésus, c'est quelque chose qui est remis en question. Et notamment sur le plan des connaissances archéologiques, vous savez qu'à l'époque, le temple, à l'époque de Jésus, le temple était séparé en différentes zones. Et il y avait des parvis où les gens n'avaient pas le droit d'aller en fonction de qui ils étaient. Et par exemple, les nations, c'est-à-dire les païens, les gentils, ils devaient rester dans ce fameux parvis des païens, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Les femmes devaient rester dans le parvis des femmes, elles ne pouvaient pas aller plus loin. Et on sait que dans le passage entre le parvis des païens et le temple, il y avait une pierre, et cette pierre, elle disait la chose suivante, « Nul étranger ne pénètre à l'intérieur de l'enceinte de l'esplanade du temple, c'est-à-dire au milieu, là en fait, hein, juste là-haut. Vous êtes obligé de rester à l'extérieur. Nul étranger ne pénètre. Celui qui serait pris y pénétrant serait cause que la mort s'en suivrait pour lui. » Et je crois qu'ici, Jésus reproche aux Juifs de son temps d'avoir transformé cette révélation universelle de Dieu à toute l'humanité en un mystère bien gardé pour un groupe de personnes. D'ailleurs, Marc le dit, il dit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » À la base, le temple, c'est prévu pour tout le monde, pour que tout le monde soit accueilli. Mais vous, vous l'avez privatisé pour vous. Vous l'avez gardé pour vous. Vous avez limité la bénédiction de Dieu simplement pour vous. Et on pourrait même dire aussi que le pouvoir religieux, en fait, a mis des barrières, des obstacles, des pierres entre les hommes et Dieu. Et d'ailleurs, il y a un passage de l'Épître aux Éphésiens qui fait référence à cette pierre-là, à ce mur-là, en fait, en disant que Dieu a fait tomber le mur. C'est à ça dont il fait référence. Et pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on est de ceux qui créent des barrières entre Dieu et les hommes ? Entre Dieu et nos contemporains ? Ça peut être des barrières très particulières dans notre manière de parler, dans notre manière de vivre l'Église. Est-ce qu'on rend accessible ou est-ce qu'on garde pour nous? Est-ce qu'on est des facilitateurs de la rencontre que Dieu désire avec chaque être humain? Et la troisième tentation, là aussi vous l'avez compris, c'est la tentation de l'autorité. C'est le diable qui, donc je lis, le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je crois qu'ici, on pourrait lire aussi la montagne comme ce mont très élevé, où Jésus a été très élevé, et où la tentation qu'il a eu à avoir à répondre, c'est « Est-ce que tu as envie d'en finir avec la souffrance de la croix ?» Et là, Matthieu, c'est intéressant, parce que les deux premières fois, vous vous rappelez, il avait dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Ben là, cette fois-ci, il ne le dit pas. Par contre, sur la croix, vous vous rappelez ce que les gens lui disent? Ils lui disent « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Je crois qu'il y a vraiment une référence aussi qui est faite par rapport à ça, du fait que Jésus vit là vraiment une tentation forte de savoir quel type de roi il va être, quel type d'autorité, quel type de pouvoir, quel type de domination il va exercer. Les chefs des prêtres aussi le reprennent sur la même chose et ils lui disent « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même ?» S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et ça, c'est une logique qui est imparable en fait. Pour nous, c'est logique. Si Dieu nous aime, ben, il va nous protéger, il va nous délivrer de ce qui, des souffrances, de tout ce qui nous fait mal. Eh bien, la logique que Jésus a au travers du passage de la croix, elle est différente. Parce que Jésus ne descend pas de la croix. Il sait que le choix qu'il fait, c'est le choix de ce que les théologiens appellent la non-puissance. Ce n'est pas de la toute-puissance dans le sens où, du coup, il fait tout ce qu'il peut. Ce n'est pas celui de l'impuissance non plus, qui fait qu'il ne peut pas faire, si il peut le faire, mais il choisit volontairement de se limiter. Parce qu'il sait que son appel, son chemin, passe par la croix. La croix comme un refus de la violence. La croix comme l'expression parfaite de l'amour des ennemis. Comme l'incarnation du don de soi. Comme le pardon vécu au lieu de la vengeance. Voilà, au travers de ce panneau-là, en fait, Matthieu nous montre qu'en fait, enfin, ce qu'il veut nous montrer, c'est de dire Jésus, c'est pas un roi comme les autres. Et le royaume qu'il est venu inaugurer, c'est pas un royaume comme vous allez le voir autour de vous. Jésus, c'est pas un roi qui manipule par le mystère, par le miracle, par l'autorité. Mais son miracle, c'est celui de la générosité. C'est celui du fait qu'on ne manque de rien. On ne manque pas de l'essentiel, comme le miracle de la manne. Son mystère, c'est celui de l'accueil inconditionnel. Et c'est marrant parce qu'on ne s'est pas du tout synchronisé, mais c'est celui d'un Dieu qui nous ouvre les bras grands et qui nous accueille. Ça, c'est le mystère. On ne l'a pas mérité. Pourquoi? Et son autorité, elle est basée sur la douceur et la miséricorde. En guise de conclusion, alors, à la base, j'avais prévu vraiment une actualisation, parce que je pense que là, il faudrait vraiment pouvoir en discuter tous ensemble, partager un peu sur qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on comprend les choses et tout ça. Et pour moi, ce serait contre-intuitif de dire qu'en fait, je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement dans vos vies et tout ça. Ça irait totalement à l'encontre de ce que je viens de dire, justement. Il y a de la place pour, justement, transformer le monologue en dialogue au travers de ça. Mais pour nous, est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Et on peut se dire, est-ce qu'il y a vraiment encore une tentation du miracle, du mystère et de l'autorité telle que le grand inquisiteur nous le présente? Finalement, on vit en démocratie. On est à l'abri de ce genre de choses. En préparant cette prédication, je suis tombé sur une enquête qui date de février 2025, là, et donc c'est fait par le... C'est une enquête pour le CEVIPOF. Et qui nous dit la chose suivante, 41% des Français aimeraient avoir à la tête du pays un homme fort, qui n'a pas besoin des élections. 73% des Français estiment qu'il faut un vrai chef pour remettre de l'ordre. On n'est pas si loin ni de Dostoïevski, ni de ce que Satan propose à Jésus. Comme je disais, on n'aura pas l'occasion d'approfondir plus, mais je vous propose deux choses. La première, c'est une idée, et la deuxième, c'est un texte. Une idée, si en groupe de maison, ou si en cellule locale, ou si à titre individuel, vous avez envie de creuser la question, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, n'hésitez pas à vous manifester auprès du conseil pastoral, auprès de moi, ou voilà, d'envoyer un mail ou autre chose, et on peut échanger. Je sais que ça s'est déjà fait pour certaines prédications, que éventuellement le prédicateur vienne par exemple dans le groupe de maison ou autre chose. Voilà, si on a envie d'ouvrir les échanges par rapport à ça. Et la deuxième chose, parce que je voulais quand même pas laisser avec un, on va dire un vide, mais il n'y avait pas de vide, mais en tout cas c'était sans élément de réponse, c'est la question de savoir comment est-ce que du coup en Église, on est interpellé par Jésus lui-même. Et je crois qu'un des passages vraiment clés où Jésus fait la distinction en fait entre cette culture qui existe et la contre-culture à laquelle on est appelé, c'est le passage de Marc 10. Et c'est sur ça que j'aimerais vous laisser. En fait, c'est pour remettre dans le contexte, c'est deux disciples de Jésus qui viennent voir Jésus et qui disent « Quand tu seras au ciel, on aimerait bien être assis l'un à droite, l'autre à gauche de toi, voilà, qu'on soit un peu valorisé. Tu sais, on est quand même tes 12 disciples, donc nous, on fait partie quand même des gens choisis, quoi. » Et puis Jésus, il leur dit « Mais vous avez rien compris, en fait. Hein. » Ça, cette logique-là, c'est la logique qu'on retrouve, justement, dans le monde. Et c'est ce qu'il leur dit, donc dans Marc 10, il dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Ceux qu'on considère comme des chefs politiques, ils dominent sur les peuples. Les grands personnages font peser leur autorité sur eux. » Et qu'est-ce qu'il dit ? « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Que nous puissions suivre cet exemple, c'est un appel pour l'Église, et que le Saint-Esprit nous aide et nous inspire pour mettre cela en œuvre. Et pour terminer, je vous propose d'écouter un chant en guise de prière. C'est un chant que vous avez peut-être déjà connu. En fait, c'est tiré d'une bande originale d'un film, La Ligne Rouge de Terrence Malick. Et ce chant-là, donc, en fait, c'est un chant mélanésien, des îles mélanésiennes, donc c'est dans l'océan Pacifique. Et je vous lis deux strophes de ce chant-là. « Prends ma vie et laisse-la être consacrée à toi, ô Seigneur. Prends mes mains et laisse-les se déplacer, poussées par ton amour. Prends mes pieds et rends-les rapides et agréables pour toi. Prends ma voix et laisse-moi chanter toujours pour toi, mon roi. » Amen. Et je vous invite maintenant à écouter en guise de méditation, et après on passera au temps des annonces.